tous et à vous toutes de nouveau. Merci d'être là. Alors, sans plus tarder, j'invite notre prochain conférencier, Monsieur Ghislain Roussel, à s'approcher. Alors, je vous rappelle que le sujet de ce deuxième panel de la journée est consacré à la place du droit dans le marché numérique de la culture. Alors, peut-on espérer qu'en matière de droit, le nouvel Eldorado numérique, si c'en est un, puisse rendre justice aux créateurs, aux ayants droit, aussi bien qu'aux autres intervenants de la chaîne économique en culture? Alors, qui est M. Roussel et pourquoi est-il l'homme de la situation pour répondre le premier à cette question-là? Eh bien, il agit comme avocat conseil de 1998 à 2009. Tout récemment, il a été secrétaire général et directeur des affaires juridiques de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Auparavant, il a notamment travaillé au ministère des Relations avec les citoyens et de l'immigration, en gestion des droits d'auteur pour les publications du Québec, et a été secrétaire général du Conseil des arts et des lettres du Québec. Il a été président également de l'ALAI Canada, donc l'Association littéraire et artistique internationale section Canada, qui est un organisme de promotion et de défense du droit d'auteur, et membre du comité exécutif de cette association internationale. Il est président, enfin, du conseil d'administration de la revue Les cahiers de propriété intellectuelle. Alors voilà, M. Roussel, quelle est la place du droit dans ce nouvel univers numérique? Y en a-t-il une?
Oui, il y en a.
Ou est-ce un monde hors la loi et complètement où le contrôle est une illusion, pour reprendre le mot de M. Valiquette ce matin?
Merci, M. Jutras, de m'avoir invité à prononcer cette conférence. Et je salue les présidents des sociétés membres du fondateur de l'Observatoire de la culture et des communications du Québec, ainsi que les membres du comité directeur avec qui j'ai eu l'occasion de travailler à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Je n'ai pas de PowerPoint. Il y avait un sommaire qui avait été fait, mais j'ai dit, c'est pour parler des questions de droit, c'est à nous à s'adapter à ce qui était dit avant. Donc, j'ai promis à la présidente du panel que je ne dépasserai pas 20 minutes. Et ceux qui me connaissent, bien, vous pouvez dormir, je vais radoter. Ce panel s'intitule « La place du droit d'auteur dans le marché numérique de la culture » et consiste à savoir si l'on peut espérer en matière de droit le nouvel Eldorado puisse rendre leur juste part aux créateurs et aux autres intervenants. Je serais porté à modifier légèrement l'intitulé du mandat du panel par la place du créateur et non pas du droit, car ce dernier existe et il prévaut. Il continuera de prévaloir, quel qu'il soit, nationalement et internationalement, s'agissant des droits de propriété intellectuelle, du droit de la propriété et du droit au respect des renseignements personnels et à la vie privée sur lequel on n'insiste pas suffisamment, du droit criminel et fiscal, parce qu'il intervient aussi, mais surtout du droit contractuel. Le droit évolue ou régresse selon les points de vue, mais convenons que s'il change ou il évolue, c'est très souvent en retard sur la réalité économique et sociale. Ainsi, les modifications fort lentes de la législation canadienne sur le droit d'auteur depuis 1997 le démontrent nettement. D'aucuns prétendront, pas toujours à tort, que la loi actuelle s'y est fort bien, malgré les développements technologiques. Quant au nouvel Eldorado, la question posée, je répondrai tout de go, quel nouvel Eldorado? Lequel, d'ailleurs, n'est pas encore tout à fait là, ou est-ce un réel Eldorado? Il est à venir, souvent en gestation ou en mutation, et pour qui d'ailleurs, car il y a peu de convives au dîner. Le créateur n'y a pas sa véritable place, ou si c'est le cas, elle est discrète ou effacée, bien que des tentatives individuelles fort louables sont menées, et les efforts et les tarifications d'utilisation du matériel protégé qui sont établis par des sociétés de gestion de collectivité du droit d'auteur en sont un exemple. Tout est cependant à faire, ou presque, il faudra se battre constamment et user de vigilance et d'imagination du point de vue des créateurs, premiers ayant droit, ou en considérant également les revendications et les points de vue des consommateurs ou des usagers de l'Internet, des établissements culturels et éducatifs. Pour les fournisseurs de services Internet, et j'y reviendrai plus en détail, et les producteurs et diffuseurs, ils sont massivement présents, ils ont leur place bien en vue et de manière de plus en plus manifeste, mais ce ne sont pas toujours les producteurs cessionnaires ou titulaires de droits d'auteur qui peuvent y trouver leur intérêt ou jouer pleinement leur rôle. Ils peuvent se trouver en position de victime, je n'entends pas jouer la victimisation, ou de laisser pour compte face à des conglomérations de diffusion et de commercialisation de l'information. Je vais arriver aux questions de droit d'auteur. Cela rejoint la préoccupation de ce forum, de l'Observatoire de la culture et des communications du Québec, au sujet de l'accès à la culture des petites sociétés, je n'emploie pas le mot « petite » au sens où de la présidente du Parti québécois, ou nation et de la diversité culturelle sans en référer à la langue de cette société. Vous le constatez, tous les aspects du spectre se conjuguent et sont reliés. Il n'y a pas que la bulle juridique. Au contraire, quant aux consommateurs et aux usagers de droits d'auteur, dans notre jargon qu'on appelle les « copyrighted users », ils sont de plus en plus revendicateurs dans différents forums, lobbies ou sites Internet, et ils le seront de plus en plus satisfaits, ou ce que je pense grandement insatisfaits, et revendicateurs au regard des orientations de commercialisation prises par les fournisseurs de contenu, commercialisation accélérée du contenu véhiculé dans le web ou de verrouillage électronique, verrouillage qui s'applique même et s'étend à des œuvres qui sont dans le domaine public et de libre accès. C'est aussi ce conflit qu'on doit souligner entre l'accès tout azimut, gratuit souvent, et le respect du droit d'auteur. Ce paradigme n'est pas nouveau, il était abondamment discuté et latent fin des années 90 avec la facilité d'accès à l'informatique et au web, même dans l'environnement traditionnel. La problématique de l'Internet aujourd'hui, je l'ai connue avec les photocopieurs, les cassettes analogiques, les cassettes numériques. Le même problème s'est représenté lorsqu'il y a la création des œuvres multimédia et on réinvente la roue à chaque fois. C'est toujours la même problématique et il y a toujours une solution. Si je reviens à mes propos initiaux, voici comment je vois la situation au fil des années, considérant que le nouvel environnement numérique ou de l'Internet, qui va de plus en plus vite et qui se transforme et se succède à lui-même à un rythme effarant, se substitue à d'autres précédents. Et à cet effet, j'aimerais rappeler certains règles de base au niveau des droits de propriété intellectuelle et souligner aussi qu'il y a des éléments de réponse qui existent. Le droit d'auteur est d'abord un droit de propriété privée qui a droit au respect comme tout autre droit de propriété. Nous sommes dans un contexte de dématérialisation des œuvres. Les œuvres sont disponibles électroniquement et même nous avons en présence, non pas des reproductions d'œuvres sur support, mais des œuvres qui sont nées numériques. Il y a un développement sans cesse des formes d'exploitation des œuvres nouvellement créées. Le droit d'auteur d'un droit exclusif d'autorisation est devenu plus ou moins qu'un droit à compensation pour l'utilisation d'œuvres. Il y a un glissement du droit d'auteur d'un droit individuel, il devient de plus en plus un droit collectif d'exploitation ou un droit d'entreprise parce que le droit glisse vers les producteurs et les diffuseurs. Il y a l'affirmation de nouveaux droits qui sont les droits des consommateurs. Il y a une affirmation péremptoire du sacro-saint principe de l'équilibre des droits, mais il est à géométrie variable et c'est un équilibre qui est plutôt à sens unique. Il y a aussi ce que je disais tout à l'heure, ce conflit permanent entre le droit de propriété intangible et le droit à l'accès à l'information. Et tous tendent vers la recherche de l'équilibre des droits. À ce constat, qui peut paraître un peu défaitiste ou négatif, je suis fort bien lucide, il existe des pistes de solutions. Ces pistes de solutions sont les suivantes. Et il y a certaines prémices qu'il faut accepter. Le droit d'auteur, ça se gère dans un environnement électronique et dans la société de l'information. Le droit d'auteur ne constitue pas un obstacle, comme on prétend, à la libre circulation des idées ni à l'accès à l'information et au savoir. Au contraire, un renforcement de la législation en matière des contrats est nécessaire, et surtout les contrats entre les créateurs ou les ayants droit et les fournisseurs de services Internet. Une révision du droit d'auteur doit certes être effectuée concernant la manière de libérer les droits d'auteur dans les œuvres protégées, sinon dans le fonctionnement des sociétés de gestion collective. Je suis un de ceux qui fait la promotion d'avoir peut-être une seule société ou une société unique qui gère les œuvres dans l'Internet, quelle que soit la catégorie d'œuvres, et de ne pas les gérer de manière corporative selon les formes d'exploitation ou les catégories d'œuvres. Donc, de nouveaux mécanismes simples, rapides et économiquement raisonnables de libération des droits dans l'environnement numérique, ça existe. On en a parlé tout à l'heure. M. Désiel en a fait référence aussi. Et aussi, il faut mettre fin à cette dérive du droit d'auteur et faciliter le retour aux principes de base. Où se situe-t-on au niveau des développements législatifs? Vous êtes au courant que le gouvernement fédéral a déposé le 2 juin 2010 le projet de loi qui est censé moderniser la loi sur le droit d'auteur et qui a comme fondement d'établir un équilibre entre les droits des consommateurs et des entreprises et les droits des créateurs. Le projet de loi prend nettement le virage numérique et ce de manière globale. le gouvernement fédéral a livré la marchandise quant à l'utilisation de l'Internet et de l'environnement numérique, mais au détriment des ayants droit par la révision ou l'élargissement d'exceptions aux droits d'auteur ou la création de nouvelles exceptions. Il y a certes là un progrès du point de vue de certaines catégories d'usagers, dont les établissements d'enseignement et les bibliothèques, et à certains égards, les consommateurs. Mais toute cette recherche dans C32 de l'équilibre entre les ayants droit et les utilisateurs renforce les droits des utilisateurs individuels et institutionnels, allège de beaucoup les responsabilités des fournisseurs de services Internet et vole au secours de l'industrie, mais tout cela au détriment des premiers créateurs. Il me reste combien de minutes?
Il me reste 10 minutes.
Ah bon, je pense que je lis mon texte, je ne suis pas verbomoteur. Si l'objectif poursuivi vise à favoriser l'accessibilité au contenu et à la diffusion des connaissances, l'introduction dans le projet de loi de nouvelles dispositions en vue d'aider, en principe, les créateurs de contenu à protéger leurs œuvres aurait plutôt l'effet de toucher durement ceux-ci. Cela répondra-t-il aux attentes des consommateurs, des bibliothèques, des établissements d'enseignement, entre autres? En partie, mais de forts doutes se soulèvent au niveau des associations des regroupements représentant les ayants droit. Le gouvernement accroît davantage le déséquilibre entre les droits des titulaires de droits et les droits des utilisateurs, ce qui n'est pas sans fondement. Je vais parler d'un seul élargissement et après je parlerai des fournisseurs de services Internet. Le projet de loi, son article 21, étend notamment la portée des dispositions sur l'utilisation équitable aux fins d'éducation. Cette exception-là, qu'on appelle « faire des lignes » au Canada, qui est complètement différente du « fair use » américain, qu'on implante souvent ici au niveau de différents forums, et je rejoindrai le professeur de l'Université du Québec à Trois-Rivières concernant l'importation du « fair use » américain ici, qui est complètement différent de la théorie du « faire des lignes » canadien. Sauf que cette notion de faire des lignes a été revisée de façon substantielle par la Cour suprême du Canada il y a à peu près 3-4 ans. L'exception au droit d'auteur, selon la décision de la Cour canadienne dans CCH contre le barreau du Haut-Canada, dit que les exceptions à la loi sur le droit d'auteur doivent être considérées dorénavant comme des droits des consommateurs et qui doivent être interprétées de façon libérale. Ça change. J'ai dû refaire mon cours en droit. Ça va à l'encontre de toutes les lois sur l'interprétation pour ceux qui sont juristes. Donc, on a étendu la définition aux fins d'éducation sans définir, et éducation est un terme beaucoup plus large que formation ou enseignement. Et on ouvre la porte, on se le disait lors du déjeuner avec les membres de ce panel, on ouvre la porte à n'importe quoi, tout sera prétexte à éducation et pourquoi je négocierais avec des ayants droit pour l'utilisation d'œuvres protégées ou des associations de titulaires de droit. De très, très beaux procès en perspective. On crée cette exception générale-là et en même temps, on revise des exceptions existantes pour les élargir à l'environnement numérique et à l'Internet, mais on se demande pourquoi on fait cet élargissement-là alors que l'exception devrait tout couvrir. Pour que tout est d'éducation. De très belles querelles juridiques en perspective. Mais par ailleurs, avant de parler des fournisseurs de services Internet, pour les consommateurs, la loi revise des dispositions, élargit des dispositions existantes pour les établissements d'enseignement, les bibliothèques ou même des individus pour les copies privées ou les fins personnelles, mais elle apporte beaucoup, beaucoup de nuances, à savoir que je peux faire une copie ou une reproduction, même une copie numérique dans certains cas, mais il faut s'assurer que l'exemplaire que j'ai est un exemplaire licite et non pas contrefait, que l'œuvre en question ne comporte pas des mesures de contournement, des mesures techniques de protection, et si je contourne ces mesures techniques de protection, j'encours des sanctions ou des pénalités selon les circonstances. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de dispositions qui concernent les mesures techniques de protection. Et comme le disait Mme Solange Drouin de la DISC un jour, c'est la solution qui a été privilégiée par le gouvernement fédéral dans C32, mais c'est loin d'être une solution. Les mesures vont être contournées. On dit aux ayants droit, c'est à vous de vous protéger, mettez des mesures techniques de protection. Les producteurs font pareil, les diffuseurs font pareil, mais les mesures techniques de protection sont faciles à contourner. et ce n'est pas la solution, je pense, qu'il faut privilégier. Et l'effet retard que ça peut avoir, c'est que j'ai simplement qu'à prendre du matériel qui est dans le domaine public, d'en faire un peu un enrichissement ou une amélioration et de mettre des mesures techniques de protection et je viens de bloquer l'accès à ce document. En ce qui concerne les fournisseurs de services Internet, ils sont ceux qui gagnent le gros lot dans ce projet de loi-là. Et on les responsabilise en voulant dire, vous mettez des contenus sur Internet, mais vous serez responsable, mais de façon très, très limitée. Le projet de loi maintient la situation actuelle à l'effet que fournir des moyens permettant la télécommunication qui rendrait éventuellement possible la reproduction d'un contenu protégé ne viole pas en soi le droit d'auteur. Les modifications proposées font en sorte que les fournisseurs de services Internet devront se soumettre à un système d'avis à un contrevenant sur intervention du titulaire de droit qui a noté qu'il y avait des violations au niveau d'utilisation de ses œuvres. Il en informe le fournisseur et le fournisseur rentre dans un système d'avis au contrevenant, sans plus. Les fournisseurs qui laisseraient se perpétrer une violation du droit d'auteur sur les contenus qui transitent sur leur réseau sans donner l'avis requis sera alors passible d'amende. Compte tenu des lourds délais qu'impose le mécanisme dans la loi, avant quelque intervention ou recours auprès du fournisseur de services, l'internaute délinquant aura amplement le temps de s'évanouir dans la nature, de magasiner ailleurs, de changer de fournisseur. Les responsabilités des fournisseurs de services Internet sont importantes dans l'acquisition et la mise à disposition des contenus et leur accès. Ils devraient assumer au chapitre des obligations envers les titulaires de droits d'auteur le corollaire de leur avantage ou droit. Et ceci est possible d'y arriver quand on dit que les solutions n'existent pas. Elles existent et le mécanisme et la négociation d'entente avec les ayants droit, entre les diffuseurs ou les distributeurs et les ayants droit quant à la mise à disposition des œuvres dans l'Internet. Et lorsqu'on me tient encore le discours que ces fournisseurs-là sont des common carriers qui ne font que fournir le câblage ou les canaux de communication, c'est solutionné parce qu'ils transmettent et véhiculent largement des contenus. Voilà. Et j'ai terminé, madame, et je fais un peu ma petite... mon laïus ayant été à la Bibliothèque et Archives nationales, parce que j'écris là-dessus actuellement, il y a une préoccupation aussi importante au niveau des publications en ligne, c'est la conservation de la mémoire du patrimoine national d'une société. Et il n'y a pas de dépôt légal de ces publications-là, et il n'y aura plus de mémoire des supports numériques, des publications numériques ou électroniques sans support. Merci.
Restez avec nous. Voilà.